Il ne faut pas beaucoup de temps pour se rendre compte qu'on est face à un chef-d'œuvre. Avec Nausicaa de la Vallée du Vent, le grand manga qu'a publié Miyazaki, cela s'est passé à la 6e page. Je n'y comprenais pas grand-chose encore, j'étais dans la forêt et l'héroïne portait un masque à gaz. Il y avait une tête casquée géante à côté d'elle, mais ce qui l'intéressait, c'était une énorme carapace vide. Elle l'a escaladée avec la poudre d'une cartouche, elle en a détaché une des monstrueuses protubérances. Ce serait parfait pour les coupoles du gunship. Elle s'est enfin assise là et a tenu l'objet au-dessus de sa tête pour regarder à travers lui une pluie de spores mortels dont on apprendrait plus tard qu'ils ne sont qu'un des éléments du cycle par lequel la forêt purifie une terre empoisonnée par une guerre ancienne. Toute l'histoire de Nausicaa, ces 6 tomes denses publiés entre 1982 et 1994, était ainsi destinée à se résorber dans ce récit écologique plus vaste. Ce qui tuait aujourd'hui les humains, ces spores contre lesquels ils luttaient avec des incendies dérisoires, contribuaient à rendre la Terre à nouveau habitable. Nausicaa, c'est une romance lovelockienne du nom de ce biochimiste anglais mystérieusement centenaire, James Lovelock, qui a pour la première fois décrit la vie sur cette Terre de façon systémique. Non pas un organisme unique, mais un principe d'homéostasie globale à la fois thermostat, usine chimique et architecte. Et ce que nous a appris Lovelock, dont Nausicaa est légèrement postérieure à la vulgarisation des thèses, c'est que la vie se développe en général dans les décombres des règnes antérieurs. Le cycle actuel du carbone et de l'oxygène n'est qu'une sorte de vaste usine de retraitement. Il faut imaginer Wally heureux. Tout là-bas, au cœur de la forêt maudite de Nausicaa, les arbres ont commencé à cristalliser, à former du sable inoffensif. Pour quelle espèce inconnue ? Mais si je reviens au début du premier tome de Nausicaa, ce qui m'a impressionné, c'est la vitesse prodigieuse du récit. À peine la coupole installée sur le gunship de la Vallée du Vent, l'intrigue décolle soudain quand Nausicaa part l'essayer. Il se passe en fait quelque chose d'absolument délicieux et que je peine un peu à définir, sinon en spoilant injustement une sympathique série B de science-fiction, la stratégie Ender, dans laquelle Harrison Ford entraîne des adolescents à combattre une menace extraterrestre. De simulation en simulation, le jeune Ender finit par prendre des décisions de plus en plus risquées, sacrifiant même des vaisseaux entiers pour parvenir à la victoire. On apprend alors qu'il ne s'agissait pas d'une simulation, mais de la véritable bataille finale. Ender en est un peu fâché, mais l'humanité est sauve. Et on trouve bien quelque chose de cet ordre dans Nausicaa, car à peine embarqué dans le gunship pour que ce qui ressemble à un vol d'essai, Nausicaa est capturée par l'intrigue principale. Elle récupère, après avoir secouru les victimes d'un crash, un artefact capable de réanimer l'un des géants dont on a aperçu la tête dans les premières pages et qui jouera un rôle central dans la guerre entre les Dorks et les Tolmecs. Je ne peux m'empêcher de noter, au passage, des similitudes avec l'histoire à peu près contemporaine de la planète des chats de Westerlin, qui voit cette fois des surdoués emmener le docteur Poche à l'autre bout de l'univers dans une moissonneuse-batteuse modifiée. Mais pour revenir à Nausicaa, l'astuce scénaristique, aussi ancienne sans doute que la BD, fonctionne merveilleusement bien. C'est presque aussi rapide que Tintin au pays des soviets, pour donner une comparaison peut-être moins déplacée qu'il n'y paraît. Miyazaki explique en effet qu'il a renoncé aux splendeurs du grand récit communiste pendant qu'il travaillait sur Nausicaa. On se croyait en tout cas parti pour un tour de présentation du monde imaginaire, mais on est déjà sur la rampe de lancement de l'intrigue, et la chose a encore quelque chose de lovelockien, si le réchauffement climatique est bien le grand événement dont nous sommes les contemporains. Nos cycles habituels, saisonniers, ceux des anciennes histoires, les derniers vols d'essai de nos années d'apprentissage, je pense à tous ces livres rassérénants dont l'unique enjeu dramatique est la préparation de l'hiver, la famille souris, les Schtroumpfs ou Game of Thrones, sont en train de s'écraser sur un temps aux enjeux dramatiques trop grands pour nous, à moins que nous démontrions, comme Nausicaa, d'exceptionnelles vertus d'héroïsme et que nous laissions sa chance au temps du mythe, un temps lent, souverain et géologique.